Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, bon début d'après-midi sous la neige. Et oui, Dame Nature n'a pas encore saisi que c'était le printemps qui s'était amorcé pourtant il y a quelques jours. C'est Marianne Paquette derrière le micro. Bienvenue à cette émission de C'est bon pour la santé. On est ensemble pour les 30 prochaines minutes. J'ai envie de débuter en vous posant une question. Qu'est-ce que l'estime personnelle, selon vous? J'y réfléchis un petit peu et je me disais que souvent, l'estime de soi, l'estime personnelle, ben, ça se construit à partir d'expériences qui sont positives, hein, et aussi de l'image que l'on se fait de soi-même et la valeur que l'on attribue à cette image. Et à l'adolescence, ce passage parfois difficile, passage qui est obligé, c'est une image qui est un petit peu ébranlée parce qu'il y a beaucoup de transformations et des transformations sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Ça suscite des bouleversements, des questionnements. Puis les modèles qui sont offerts à nos ados, ben, ce sont souvent des modèles, que ce soit via le cinéma, la publicité, les revues, des modèles qui ne représentent pas tout à fait la réalité. Ça engendre beaucoup d'insatisfaction chez les jeunes. On en entend parler, on peut l'observer aussi. Et c'est peut-être pour ça que l'organisme Équilibre, via son prix, le prix Imagine, récompensera à la fin du mois d'avril une entreprise québécoise qui s'est démarquée par sa représentation diversifiée, saine, du corps. Et ce, autant dans le monde de la mode, de la publicité et des médias. Et cette année, fait intéressant, le jury est composé, entre autres, de 7 jeunes de 12 à 17 ans. Tout à l'heure, je reçois Daphné Legault, elle a 16 ans. Et ce sera plutôt agréable de discuter avec elle de diversité corporelle. Aussi, vous parlez de l'une des périodes préférées des Québécois, qui s'est amorcé récemment, le temps des sucres, avec en vedette ce produit que l'on aime, que l'on connaît beaucoup ici, en tout cas du moins, on pense bien le connaître, le sirop d'érable, hein, véritable produit chouchou ici. Et on est chanceux parce que le Québec, c'est un chef de file mondial en matière de production de sirop d'érable. Et tout ça en continuant de susciter de plus en plus l'attention des chercheurs qui tentent de prouver les bienfaits possibles du sirop d'érable sur la santé. Donc, ça regarde plutôt bien pour nos becs sucrés. Pour en parler avec moi, Philippe Mollet, chef chroniqueur gastronomique, conférencier et auteur. Philippe Mollet, bonjour.
Bonjour Marianne, bonjour, bon après-midi.
À vous aussi, un sujet qui s'amorce entre nous deux, qui fait saliver bien des gens, Philippe Mollet.
Vous avez raison, quand on parle de sirop d'érable, on pense d'abord cabane à sucre, on pense se sucrer le bec, on pense la fin de l'hiver surtout.
Oui, et je le disais tout à l'heure, ben, fin de l'hiver, hein, que l'on espère, mais que l'on n'a pas encore vu. Hein. Je le disais tout à l'heure, on pense bien connaître notre produit chouchou, le sirop d'érable, mais il y a bien des choses qu'on ne sait pas. Par ailleurs, peut-être la quantité de sirop d'érable que l'on produit ici au Québec, on est un chef de file, mais comment on peut représenter en image là, la quantité de sirop d'érable que l'on produit, Philippe?
Ben écoutez, si je vous dis 34 millions de livres, c'est sûr que ça ne veut pas dire grand-chose au niveau des consommateurs. Je pourrais faire comme font en général les gens, vous dire ça fait peut-être 50 stades de football remplis, mais ça ne veut absolument rien dire parce que le sirop d'érable s'écoulerait par les estrades.
Ouais.
En fait, je pourrais vous dire qu'on est 70 ou 72% de la production mondiale, ce qui est quand même énorme si on compare aujourd'hui que la quantité a augmenté en l'espace de 5 ans, vraiment en millions de livres, à peu près 4 à 5 millions de livres augmenté depuis 5 ans, ce qui est quand même pas mal. Et si je vous disais aussi que tous les pays émergents, comme par exemple l'Inde ou l'Angleterre, et sans parler de l'Asie, consomment de plus en plus de sirop d'érable, et outre le Québec et les États-Unis, eh bien, écoutez, il y a l'Europe qui commence à s'y mettre aussi.
Mm-hmm. Mais en même temps, on a des compétiteurs, je pense, parce que les États-Unis aussi commencent à produire du sirop d'érable.
C'est-à-dire que les États-Unis ont toujours produit un peu de sirop d'érable dans le Vermont. Hein. C'est sur nos voisins, d'abord, pour commencer. Il faut quand même tenir compte d'une chose. Les érablières n'ont aucun rapport aux États-Unis avec la surface qu'on peut retrouver, par exemple, à l'intérieur du Québec, spécifiquement dans, je veux dire, Appalaches, dans la Beauce, qui sont vraiment les principales régions, bien qu'il y en ait un peu partout, sauf aux îles de la Madeleine. Mais franchement, je dois vous dire que, bon, les Américains sont très agressifs parce qu'ils se sont rendus compte non seulement des bienfaits gastronomiques et épicuriens, mais aussi des bienfaits au niveau de la santé.
Oui, de plus en plus, on en entend parler récemment dans la revue L'Actualité. Le sirop d'érable pourrait nous protéger de l'Alzheimer. Donc, tout ça, ça doit plaire quand même aux producteurs, les acériculteurs, parce que le sirop d'érable continue de briller par une bonne réputation.
Ah, moi, je vous dirais que, écoutez, si j'étais riche, j'investirais dans des érablières en ce moment, parce que je pense, et les acériculteurs qui travaillent fort, hein, ce sont en général des métiers où on travaille durant pas très longtemps, mais il faut bien comprendre qu'après le reste de l'année, il faut entretenir l'érablière. Donc, c'est aussi un travail titanesque. Alors, oui, il y a cet engouement aujourd'hui pour l'érable, parce qu'on y découvre des propriétés comme le Québécol, qui a été mis au point par l'Université Laval, qui est cette substance, comme vous le disiez, qui permettrait de d'améliorer les conditions au niveau de l'Alzheimer, mais aussi, par exemple, de l'arthrite. Donc, c'est pas rien. Il y a une maladie anti-inflammatoire. On s'est rendu compte aussi, vous savez que la semaine dernière, c'était la semaine anti-sucre, on en parlait partout, c'était l'ennemi numéro un à abattre au niveau de l'agroalimentaire et de l'alimentation. Il faut comprendre une chose aussi, Marianne, le sucre, on en a besoin dans notre organisme. Le danger n'est pas le sucre comme tel, le sucre direct, mais ce sont les sucres cachés. Et encore là, je dis toujours, c'est comme l'huile d'olive. On n'abusera pas de prendre un litre d'huile d'olive par jour. Mettons, si on prend 2 ou 3 cuillères d'huile d'olive, c'est excellent pour la santé. C'est un peu la même chose pour le sucre d'érable. Si on prend 1 ou 2 cuillères pour sucrer son café ou sucrer une crème glacée, un yogourt ou je sais pas, une pâtisserie ou des céréales, c'est pas grave. Ce qui peut être dangereux, c'est quand les gens abusent et c'est toujours la même chose.
Oui. J'imagine aussi qu'il y a une façon de choisir notre sirop d'érable. Est-ce que certains types sont plus de qualité que d'autres?
Ça, c'est une bonne question. C'est un grand dilemme qu'on a pu voir. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'étais en Angleterre à la demande du gouvernement fédéral pour faire une présentation justement aux Anglais sur les produits d'érable. Et à ma grande surprise, je suis allé voir ce que je fais un peu à chaque fois que je visite un pays. Je fais deux choses. Je visite les marchés, donc les marchés publics, et je visite les supermarchés. Et là, ça nous donne un peu la tendance locale de voir l'évolution alimentaire de nos compatriotes à travers la planète. Ce que j'ai découvert en Angleterre, c'était vraiment pitoyable. On avait l'impression qu'on était dans les années 30 ou 40 avec du sirop de mélasse qui goûtait du caramel foncé. Et ça, c'est un problème que l'on a. Et c'est un peu pour ça que la nouvelle classification de l'érable, aujourd'hui, devrait permettre d'améliorer les choses. Alors, il y a ce n'est pas une question de couleur, hein. La qualité n'a rien à voir, c'est comme l'huile d'olive encore une fois, ce n'est pas une question de couleur, mais c'est une question de goût. Mais les premières sèves, lorsqu'on récolte les premières coulées au départ, on a du sirop clair et extra clair, d'accord? Ensuite, on y va vers un sirop médium, puis on termine avec un sirop foncé. Plus le sirop va être foncé, donc dans la saison quand on avance, plus le sirop a un risque de goûter ce qu'on appelle le bourgeon. Et à ce moment-là, ça devient une négation. Maintenant, il y a les grades 1, 2, 3 ou ABC. Et c'est toujours le grade le premier, donc A, comme pour la viande, qui est le grade supérieur en qualité.
Est-ce que, je disais, Philippe Mollet, que éventuellement, du côté de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, on voudrait, un peu à l'instar de la SAQ, mettre des petites étiquettes pour...
Les pastilles, oui.
Oui, les pastilles, voilà, c'est le bon terme, pour mieux reconnaître les sirops d'érable. Est-ce que c'est quelque chose de réel, vraiment, qu'on pourrait envisager dans les prochaines années?
C'est surtout, je dirais, c'est pas, vous savez, il y a deux choses avec la Fédération des producteurs qu'il faut retenir. C'est qu'il y a un grand dilemme avec le rapport Gagné, vous avez dû en entendre parler. Donc
oui, les 21 recommandations.
Et voilà, c'est ça. L'avantage qu'il y a, cependant, avec la Fédération, c'est que vous êtes certain que tous les fûts de barils, on parle de milliers et de milliers, pour ne pas dire plusieurs millions, de barils de sirop d'érable sont tous goûtés un à un. Donc, vous avez automatiquement, s'il y a un défaut, il est déclassé. À ce moment-là, ce sirop-là va servir à l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire la confiserie, la pâtisserie, où il peut éventuellement être récupéré. Alors, s'il y a des pastilles mises en place par les producteurs de la fédération, donc tous les acériculteurs qui sont membres de la fédération, il va y avoir ces pastilles qui vont être un renseignement, bien sûr, sur la classification, bon, sirop clair ou extra clair, comme c'est déjà marqué normalement avec le grade, mais surtout les accommodations. Ce qui veut dire qu'on va vous suggérer, par exemple, avec un sirop clair ou un sirop extra clair, on peut vous suggérer de faire une marinade légère, mm-hmm. Vous voyez, un accompagnement qui sera beaucoup plus léger. Si vous voulez faire, par exemple, avec des côtes levées, on va vous dire, allez vers le médium parce que ça a besoin, avec de la viande, d'être plus relevé, d'être plus corsé, d'avoir plus un goût de caramel.
Oui.
Vous comprenez?
Oui, oui. Et je comprends que ainsi le consommateur, le grand public, saura davantage mieux utiliser le sirop d'érable dans le quotidien et dans la cuisine.
Absolument. Et ce qui est drôle, hein, quand on dit nul n'est prophète en son pays, ce qui est drôle, c'est que tous les Québécois, tout le monde va vous dire qu'il a du sirop d'érable à la maison, qu'il a un mononcle, un cousin qui fait du sirop d'érable. Puis évidemment, c'est le meilleur au monde. Hein, on s'entend. C'est comme les Italiens qui achètent du raisin au marché Jean Talon, puis qui font leur vin, puis ils vous disent que c'est le meilleur. Bon, si c'était aussi simple que ça, ça serait vraiment facile. Mais il y a aujourd'hui, pour l'érable, et ça on le sait, il y a une amélioration qui est considérable dans la fabrication, parce qu'on est parti des chaudières au plomb, et ça c'était absolument négatif il y a 30 ans, 40 ans. Les chaudières au plomb, les soudures étaient faites au plomb, dans lesquelles les bouilloires étaient faites avec des soudures au plomb, et aujourd'hui tout est en stainless. Déjà là, il y a un risque de moins. Deuxièmement, les tubulures que l'on voit, au départ c'était critiqué par les producteurs eux-mêmes. Finalement, ils se sont rendus compte que lorsque la tubulure était bien entretenue, bien nettoyée, il y avait un grand avantage au niveau de la salubrité et du contrôle. Vous voyez, vous comprenez? Alors, toute cette évolution aujourd'hui nous permet d'avoir un produit exceptionnel. Et n'oublions pas que c'est un des produits les plus près de la nature, puisqu'on part de la terre à l'arbre et directement à nous.
Oui, et un produit qui se diversifie aussi à travers les années. Je veux revenir un petit peu à la mise en marché du sirop d'érable qui, maintenant, se propose dans plein de produits dérivés, Philippe.
Ah oui, vous avez raison. Et quand on parle de produits dérivés, moi j'ai eu la chance de participer avec la ferme du Grès des Champs qui font des fromages au lait cru à la naissance d'un nouveau bébé qui s'appelle le Michetan, qui est un fromage de vache au lait cru dans lequel on lavait cette croûte de fromage avec de l'eau d'érable et avec du sirop d'érable épicé. Alors, merveille. Bon, bien sûr, il y a aujourd'hui des perles de vinaigre d'érable, il y a une foule de produits, les alcools, rien que les alcools, les bières à l'érable qu'on peut retrouver sur le marché. Oui. Alors, toute cette évolution fait qu'on arrive aujourd'hui à avoir un produit vedette, mais pas seulement en conservant le folklore et la tradition, c'est-à-dire tel qu'on la voyait avec le coureur des bois, la chemise carottée, puis la façon de consommer avec le jambon. Ça reste, ça demeure, la tradition fait partie de la vie, il faut la garder, il faut la conserver, il faut la sauvegarder même. Mais il y a aujourd'hui une évolution, surtout vers les jeunes, les jeunes parents, civilisation moderne, qui va consommer du sirop d'érable, mais d'une autre façon. Mm-hmm. Et c'est ce qui est intéressant, à mon avis.
Oui. Est-ce que c'est une industrie qui se porte bien, Philippe? On lisait dernièrement que la Fédération des producteurs acéricoles du Québec voulait augmenter les entailles, et ce, dès 2017. Est-ce que c'est parce que ça ne va pas aussi bien qu'on pourrait le penser?
Non, pas du tout, au contraire.
Okay.
Au contraire, je vous dirais, parce que la demande s'accroît dans le monde entier. Je vous
parlais c'est pour répondre à la demande, alors.
Oui, tout à fait. Je vous disais l'engouement. Et c'est là, tant mieux, c'est là qu'il ne faut pas laisser faire le marché américain des États-Unis,
où
eux sont subventionnés par leur gouvernement pour replanter non seulement dans les érablières, mais en même temps à l'échelon commercial. Moi, j'étais au Japon il y a 2 semaines pour un grand salon qui s'appelle le salon Foodex à Tokyo. Puis vous savez, quand on voit la mise en marché des Américains, l'agressivité même des Américains par rapport aux produits de l'érable, ça fait peur parce qu'ils arrivent avec leurs gros sabots et leurs gros dollars. Donc, ces gens-là investissent beaucoup. Alors nous, par contre, je dois vous dire qu'au niveau qualitatif, il y a encore du chemin à faire parce qu'ils sont loin d'avoir une qualité comme on peut la retrouver au niveau du Québec.
Oui. Donc, un produit qui, en plus de se porter bien ici, se positionne aussi très bien ailleurs dans le monde, si même au Japon, on s'y intéresse.
Oui, au Japon. Les Japonais ont été dans les peuples au niveau de l'Orient à s'occuper en Asie, par exemple. C'était les premiers à montrer un signe d'intérêt pour les produits d'érable. Mais vous savez, les Japonais sont soucieux beaucoup de leur santé, hein, que ce soit la macrobiotique, que ce soit tout. On parle aussi de la plus longue longévité. Si on va dans l'île d'Okinawa, on voit des centenaires faire encore du vélo. Puis ça, je l'ai eu la chance de le voir. C'est surprenant. Mais non, ils se sont très vite rendu compte que les produits d'érable étaient intéressants. Malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il y a toujours une bémol, Ils utilisent le sirop d'érable comme beaucoup de gens l'ont fait chez nous au Québec, ils le font encore, essentiellement sur les crêpes le matin et sur les pancakes, quoi.
Ouais, sur les sushis peut-être, ça pourrait être bien, Philippe Molly.
Ben, pourquoi pas? Mais vous savez qu'il est, c'est pas fou ce que vous dites parce qu'il existe aussi des sushis sucrés, hein.
Oui.
Donc éventuellement ça pourrait, pourquoi pas. Mais bon, je pense que plutôt l'idée pour nous c'est de leur montrer, par exemple, moi j'aurais montré un ceviche avec yuzu et sirop d'érable mélangé. Donc on est capable d'aller chercher cette clientèle qui est très attachée aux produits de la mer, mais en même temps de montrer de façon parcimonieuse qu'on a un produit extrêmement fin qui mérite d'être sur les plus grandes tables du monde.
Philippe, est-ce que nos érablières sont aussi victimes des changements climatiques comme à peu près tout l'environnement là, qui nous concerne et qui nous entoure?
Ah oui, oui, oui. Littéralement, et savez-vous, Marianne, cette année, je pense qu'avec tous ces changements climatiques qu'on a eus, en dents de scie, hein, cet hiver en dents de scie qu'on a connu, je pense que ça va être bénéfique, savez-vous, pour les érables. Parce que dans certaines régions comme la Montérégie, par exemple, ou l'Estrie, ça a coulé très vite et ça s'est arrêté. Bon, là, avec le froid qui revient, avec la nature qui revient, on dit que pour la semaine prochaine, et j'ai parlé avec plusieurs acériculteurs qui ont déjà fait leur production de l'année passée en volume. Donc, je pense que cette année va être excellente. Et si, encore tout à l'heure, je parlais avec des gens de la Gaspésie et de Rivière-du-Loup, eux, ça n'a pas encore coulé, ça n'a pas encore commencé. Donc, il y a encore du chemin à faire. On a encore quelques bons. Et ça, c'est dû probablement au changement climatique. Alors, la suite, ben, on ne le sait pas. On le verra.
Non, c'est ça.
Ça peut être inquiétant, mais c'est un grand questionnement à ce jour.
Et il faudra, bien sûr, qu'éventuellement, les producteurs s'y adaptent et peut-être effectuent ces recherches-là pour mieux s'adapter à ces changements qui s'effectuent un petit peu malgré nous. En terminant, c'est le week-end de Pâques qui s'amorce, Philippe. Des recettes inspirantes pour les gens qui nous écoutent. Comment cuisiner le sirop d'érable?
Eh bien, écoutez, d'abord, je vais vous donner un site qui permet aux gens d'aller voir un petit peu partout tout ce qui se passe au niveau de l'érable. Alors, ça s'appelle j'aime-l'érable.ca. J'aime-l'érable.ca. Vous avez non seulement des recettes, des dizaines et des dizaines de recettes, mais en même temps aussi, les gens qui voudraient se faire une cabane à sucre à la maison, ben, y a des possibilités. Ceci dit, moi, je vous donne un petit truc. Essayez de faire... Vous connaissez l'eau d'érable, Marianne?
Oui, oui, oui.
Alors, essayez de faire cuire une soupe aux pois verts. Là, je vous change un peu des pois jaunes habituels, mais une soupe aux pois verts avec des morceaux de jambon caramélisé dans l'érable et cuit dans l'eau d'érable, c'est absolument magnifique. On va changer du jambon pour prendre des cubes d'agneau qu'on peut mettre à mariner dans une marinade, huile d'olive, gousse d'ail écrasée, un peu de sirop d'érable. On met ça avec un peu de basilic, on met tout ça à mariner, on met ça en brochette, on grille ça tranquillement, puis aussi un dessert qui peut même se faire en famille avec les enfants. Vous savez, des crêpes très fines. Vous faites une crème fouettée avec du sucre d'érable. Donc, vous fouettez, vous sucrez la crème avec le sucre d'érable. Entre chaque tranche de crêpe, vous allez mettre un peu de crème fouettée. Vous montez ça comme un gâteau, à peu près une douzaine ou 16 crêpes, de façon comme un gâteau, et vous arrosez avec une sauce chocolat. Puis, vous avez un dessert de Pâques parfait pour les enfants qui veulent les amuser, qui veulent les tenir tranquilles pour quelques temps.
Philippe Mollet, vous faites saliver mon équipe ici en régie. La prochaine fois, vous allez devoir venir et amener quelques échantillons de ces belles propositions.
Tout à fait, ça sera avec grand plaisir, Marianne, avec grand plaisir.
En terminant, l'eau d'érable, oui, je connais, mais par contre, j'y ai toujours goûté au sein même d'une cabane à sucre. Est-ce que ça se trouve d'une autre façon?
Ah oui, voilà, ça c'est bien parce que si vous vous souvenez de vos souvenirs où vous avez goûté l'eau d'érable, dans les cabanes à sucre, je ne sais pas si vous savez que vous ne pouvez pas en boire tant que ça parce qu'autrement, il y a des conséquences. Hein? Disons que comme laxatif, c'est absolument parfait. Alors, il existe aujourd'hui, c'est commercialement livré dans les supermarchés un peu partout, de l'eau d'érable qui est en format Tetra Pak, sous le label NAPSI, qui est une garantie de sécurité, de salubrité et de pureté. Donc NAPSI, retenez bien, il y a plusieurs marques commerciales qui vendent le produit, donc c'est en contenant d'un litre. Et avec cette eau d'érable, d'ailleurs, que vous pouvez boire à volonté, alors là, il n'y a aucune conséquence parce qu'elle est pasteurisée. Et moi, je fais la cuisine avec cette eau d'érable. C'est absolument divin. C'est ce que je vous disais, cuire des bines avec ça ou même faire une volaille ou une soupe thaïlandaise. J'ai eu l'occasion de faire ça avec Ricardo. fabuleux.
Ben, on ouvrira les yeux sur ce tout beau, tout nouveau, en tout cas du moins, produit, Philippe Mollet. Merci beaucoup de cette discussion. Je le rappelle, vous êtes chroniqueur gastronomique, conférencier, auteur, d'ailleurs auteur d'un livre sur l'érable magnifique, Philippe Mollet.
Le grand livre de l'érable, oui.
Voilà, et également ben, chef, et vous savez ravir nos papilles, Philippe Mollet. Au plaisir et bon week-end de
Merci
Pâques.
Merci Marianne, et joyeuses Pâques à vous tous en studio.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Daphné Legault, bonjour.
Bonjour.
Tu as 16 ans, Daphné.
Oui.
Et tu as la chance d'être en congé aujourd'hui.
En effet, c'est vraiment bien.
Pour venir nous parler de ce prix Imagine qui est remis par l'organisme Équilibre et ce, le 27 avril, à une entreprise qui s'est démarquée pour promouvoir la diversité corporelle, une image saine. Et tu as eu la chance de faire partie du... Tu as été membre du jury pour déterminer non seulement les finalistes, mais le grand gagnant aussi. Est-ce que c'était une initiative nouvelle du groupe Équilibre pour mettre de l'avant dans son jury des jeunes de 12 à 17 ans?
En fait, le jury... Mm-hmm. En fait, le prix Imagine existe depuis 6 ans. C'est notre 6e édition aujourd'hui. Et les jeunes font toujours partie du jury depuis le tout début.
Ah, d'accord.
Donc, okay. C'est vraiment un principe qu'on veut inclure les jeunes parce qu'on sait que c'est un enjeu de jeunesse, carrément. Donc, on veut les inclure, on veut qu'ils puissent en parler, on veut qu'on puisse partager qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on vit.
Mm-hmm. De faire partie de ce jury-là, ça t'a amené quoi comme expérience? Est-ce que ça a changé ton regard sur la diversité corporelle?
Oui, tout à fait. Quand je suis entrée dans le jury l'année dernière, j'avais beaucoup de difficultés avec mon corps. Je l'aimais vraiment pas. C'était difficile de vivre avec lui. Mais dans le fond, en faisant partie du jury, c'est vraiment sain. On découvre plein d'initiatives qui encouragent des saines habitudes de vie, qui encouragent d'aimer son corps carrément. Puis on parle avec d'autres membres des membres de l'industrie de l'image, oui. Puis de la mode. Puis ils nous partagent leur point de vue, comment ça fonctionne pour eux. Puis c'est vraiment enrichissant. Ça aide vraiment à s'apprécier puis à avoir un meilleur regard sur ce qu'on voit dans l'industrie carrément. Mmh.
De la difficulté à vivre avec son corps, je pense que c'est le lot de bien des gens. Parfois, j'ai l'impression que c'est typique aux jeunes, aux adolescents. Ouais. Toi, autour de toi, que ce soit des amis garçons, des amis filles, est-ce que tes amis vivent avec ce malaise-là?
Oui, c'est sûr. En tant que jeune, c'est rare de rencontrer un autre jeune qui n'a aucun problème avec son corps. Juste pour vous donner un exemple, selon Québec en forme, malgré qu'il y ait 80 % des adolescents qui ont un poids considéré comme étant normal, 60 % des jeunes sont insatisfaits de leur image corporelle. Donc, c'est une statistique excessivement parlante. Déjà, ça se traduit par... des petits commentaires parfois, des filles principalement qui déjeunent pas, qui dînent pas, qui trouvent que c'est normal alors que c'est tout à fait malsain. Des garçons qui veulent toujours être de plus en plus musclés, aller au gym, ils s'envient par rapport à leur musculature. Donc c'est vraiment, ça se traduit toujours, tous les jours on en entend des commentaires comme ça. Puis moi surtout, je porte plus attention, puis je remarque qu'il y en a tout autour de moi, là.
Qui sont vos modèles? Parce que j'ai l'impression que les personnes que l'on met beaucoup de l'avant, ce sont les stars. Je pense à Rihanna, à mm-hmm. Beyoncé, qui offrent des modèles de beauté qui sont assez uniques. Là. On les voit toutes dans nos têtes en ce moment. Est-ce que ce sont elles, vos modèles? Est-ce qu'il y en a d'autres?
Écoutez, c'est très général. Là. Pour les hommes, c'est vraiment d'autres hommes musclés le plus possible. Vraiment la mâchoire très carrée, très définie. Pour les femmes, c'est simplement d'être grande, belle, élancée, mince. Ouais. Mais je dirais que le problème principal, c'est pas tant ce que les normes sociales de beauté représentent, mais c'est le fait qu'il y ait des normes sociales de beauté. Même si les normes sociales de beauté encourageaient des femmes plus voluptueuses, plus rondes, ça resterait un problème parce qu'il y aurait quand même des personnes qui n'y correspondraient pas.
Ouais.
Donc vraiment, c'est le fait qu'on n'a pas besoin des normes sociales de beauté parce qu'il y aura toujours des personnes qui ne vont pas y correspondre. Puis on n'a pas besoin de ça pour nous dire si on est beau ou pas. Donc c'est vraiment ça l'enjeu principal.
Et c'est ce que veut récompenser le prix, imagine, de Équilibre. Les 5 finalistes, Blog, Ronde et Allende, Magazine Châtelaine, la communauté Fit Hippie, le défilé Petite Femme au Grand Rêve, la marque Mosquée Eco Designer et le magazine Clin d'œil. Comment vous avez déterminé ces finalistes-là ensemble?
En fait, au début, on avait un petit travail préparatoire, vraiment d'aller voir toutes les initiatives qu'on a reçues de l'élite, de sélectionner celles qui nous marquaient, celles qu'on trouvait vraiment intéressantes. Puis après ça, on se rencontrait le jury en entier, autant des jeunes que des personnes de l'industrie. Puis on discutait quelle initiative sortait du lot, qu'est-ce qui était intéressant, qu'on trouvait qui était vraiment particulier à cette initiative-là, que les gens... Est-ce que c'est une entreprise aussi qui pourrait rayonner dans son milieu?
Ouais.
C'est ça qui est important aussi, qu'elle encourage d'autres entreprises à faire la même chose. Donc, c'était vraiment ça qu'on regardait. Ça a bien été. Souvent, c'est une grande discussion, c'est long.
Oui, parce que vous devez vous entendre.
Bien, c'est ça, on est une quinzaine qu'il faut s'entendre sur ce seront quoi les 5 finalistes du prix Imagine. Mais ça a bien été, oui.
Des jeunes, donc, dans le jury, oui. Des gens de l'industrie. Oui. Est-ce que vous aviez les mêmes visions ou c'était vraiment discordant?
Pas du tout. Ah, des fois, c'est très séparé. On aurait dit, les membres de l'industrie se parlent, puis oui, vous avez raison, tout à fait. Nous, des fois, les gens, on est... Non, mais on pense pas comme ça, nous. Fait que c'est vraiment... Puis ils sont comme, OK, ouais, pourquoi? Puis on leur en parle. Puis on partage les opinions des deux côtés. Fait que c'est enrichissant autant pour les membres de l'industrie que pour les membres du jury jeunesse à 100%. Là.
Tout à fait. Surtout en sachant que... Vous êtes les consommateurs, vous êtes les visionnaires de demain, donc il faut savoir s'adresser à vous. Il faut que ça résonne un petit peu le message chez vous pour que vous suivez, que vous ayez envie de suivre le bal. Est-ce qu'on aura droit à un scoop, Daphné? Qui sera le gagnant le 27 avril?
On n'a toujours pas déterminé.
Ah non!
Encore non! La réunion va se faire le 7 avril. Donc.
Mais pour le moment, les gens peuvent voter encore?
Oui, ils ont jusqu'au 3 avril sur le site www.voteporleprix.ca. Ils peuvent voter pour les initiatives qu'ils veulent. Il y a des liens pour aller voir plus profondément sur quelle est l'entreprise, c'est quoi l'initiative. Donc, un petit vote, c'est toujours bien.
Et en terminant, parce qu'il nous reste quand même un tout petit peu de temps, une minute ensemble, Daphné, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent, les filles, les garçons, pour tranquillement semer la graine, là, pour changer un petit peu l'image négative que l'on a de soi?
Écoutez, voter pour le prix, ça c'est sûr, mais vraiment parler de diversité corporelle, parler que les normes sociales de beauté ne correspondent pas, quand vous voyez quelque chose qui vous scandalise un peu, que vous trouvez pas correct, dénoncez-le, faites juste en parler avec les gens, partagez ça et vous allez voir, ça va se répandre comme de la petite poudre.
Voteporleprix.ca, oui. Daphné Legault, bon congé de
Merci
Pâques.
Beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup, tu es fantastique.
Merci.
Merci Jean-Sébastien de la Liberté qui se léchait les babines tout à l'heure. Je te souhaite des crêpes pleines de sirop d'érable. Marianne Paquette au micro. Rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end de Pâques. Bye-bye.